vue d'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 14h, vous écoutez Midi Plus. Midi Plus. Voici Robert Pilote.
C'est vendredi, on va continuer de jaser un peu de tourisme, de ce qu'il y a à faire dans la région. Émilie Lavergne, aux communications à Tourisme Mauricie, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut bien faire en Mauricie cette année?
Hey, c'est pas le choix qui manque. On l'a démontré hier en présentant toutes les nouveautés dans l'offre, mais on a quand même là, plusieurs centaines d'entreprises touristiques sur notre territoire, autant ville que nature. C'est plus qu'est-ce que vous avez envie de faire. C'est plus ça qu'on va aller, parce qu'on va trouver, ça c'est sûr, il y a de quoi faire.
Elle vient d'où, la clientèle en Mauricie?
Elle vient des régions périphériques, oui, couronne nord de Montréal. On est aussi une région d'escapade de par notre position là, entre Montréal et Québec. L'escapade de deux jours se fait facilement, ça allait à nous. Donc, on est une région qui est quand même très fréquentée pour ce type là, de voyage.
Le site Internet, il est très, très bien fait. Vous avez qu'à vous y rendre, bien sûr. Il y a le tourisme qui vient de l'étranger. Il y a le touriste, je vous dirais, l'intra-touriste, celui qui est dans la région puis qui va profiter de la région. Il est tout aussi important, celui-là.
Bien, non seulement il est important parce que de un, c'est de rendre dynamique et un certain sentiment d'appartenance à sa propre région, que de découvrir là, ce qui se trouve à côté de chez nous. Et de deux, c'est qu'ensuite, on joue aussi le rôle d'un ambassadeur naturel pour sa propre région, ses propres entreprises. Donc, on encourage autant l'achat local que le tourisme local, qui est tout aussi important.
C'est ça. Fait que c'est important de s'annoncer chez nous aussi, là, d'annoncer les activités récréo-touristiques. Qu'est-ce qui va pogner fort cette année?
Bien, c'est sûr qu'avec les grands spectacles, chaque année, c'est des valeurs sûres. On a quand même la chance d'avoir des spectacles exclusifs, là, que ce soit à Shawinigan ou à Trois-Rivières. On a aussi bon les grands espaces, les campings, c'est très fréquenté, c'est populaire ici en été. Le parc national, les réserves faunées, il y a vraiment moyen là, de trouver activité qui nous plaît.
Bien, merci beaucoup d'avoir pris 2-3 minutes pour nous jaser ça.
Bien, ça me fait plaisir.
À bientôt, bye-bye.
Bon été.
Voilà. Alors donc, le tourisme en Mauricie, il est, je pense, très, très en santé. Il faut améliorer notre score, cependant. Il faut devenir vraiment la destination la plus courue au Québec. Et là, actuellement, c'est loin d'être le cas. Vous avez entendu Émilie Lavergne, agente aux communications à Tourisme Mauricie. Et d'ailleurs, celui qui est l'ambassadeur de Tourisme Mauricie dans la région, c'est le comédien Rémi-Pierre Paquin, dont la bouille est très, très connue. Vous l'avez vu, entre autres, l'an passé, dans une petite pièce de théâtre qui était présentée à la Maison de la Culture, sais-tu, Francis Brisson, du côté de Grand-Mère. Midi 33 minutes, midi 34 minutes précisément. Est-ce qu'on retourne au téléphone, nous autres, là, avec notre prochain invité? Je pense que oui, hein. Parce que l'aviation en Mauricie, ça date, écoute, sais-tu, au-delà de 100 ans? Je pense que oui. Le premier vol d'aviation commerciale de brousse au Canada, OK, a eu lieu dans la région ici. Ça fait 100 ans. À quel endroit? À Lac à la Tortue. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, l'aviation de brousse est devenue sujet de zizanie. Hein? Vous avez vu que les citoyens se sont levés de bout parce qu'au fil du temps, autour de Lac à la Tortue, il y en a qui se sont installés. Au départ, c'était des chalets. Après ça, ça a été des maisons permanentes et les gens se sont mis à habiter là, puis à cohabiter avec l'aviation de brousse. Finalement, un avion, quand ça décolle, des gros beavers, tu te souviens des beavers à l'époque, les gens les prenaient pour aller un peu plus haut à la chasse ou à la pêche. Quand ça décolle, là, puis tu mets le gaz dans le fond, ça fait du bruit,
oui,
pas mal.
C'est sûr, puis tu as des endroits où vous êtes installé avant, où il y avait moins de monde, moins de résidents autour.
C'est ça, donc la cohabitation est devenue tellement difficile que finalement, il y a une guérilla ouverte qui s'est faite. C'est pas là que je veux aller pantoute. On va vraiment vous parler de ce 100e anniversaire. Claudine Drolet, chargée de projet patrimoine et muséologie numérique, maîtrise sur l'histoire de Shawinigan, est avec nous autres. Claudine, bonjour.
Bonjour, M. Pilote.
Bonjour, bonjour. Ça fait déjà 100 ans.
Eh oui, ça va faire 100 ans demain exactement.
Demain précisément, le premier vol. Écoute, ça devait être quelque chose à l'époque.
Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment au tout début de l'aviation. 1919, c'est le lendemain de la Première Guerre mondiale, plutôt. On est 6 mois après la fin du conflit. Et il faut se rappeler, là, début de développement de ce secteur-là, ici à Shawinigan, à l'époque, donc pas beaucoup de routes qui se rendent ici. On est en pleine forêt. Et c'est vraiment une initiative de la Laurentide de grand-mère, hein, de l'aviation de brousse ici. Ça vient vraiment de l'usine Laurentide, de ses partenaires forestiers en Mauricie, donc les autres usines forestières, papetières plutôt, de la région, qui se sont mises ensemble pour essayer de trouver une solution pour mieux protéger les forêts contre le feu, parce que le feu, ça détruisait leur matière première, finalement, donc ça leur coûtait très cher, et il fallait trouver une façon de l'éliminer ou de le repérer plus facilement. Puis c'est à ce moment-là qu'Elwood Wilson, qui était le chef forestier de la Laurentide, a eu une idée de génie, finalement. Il était vraiment précurseur, M. Wilson, c'est vraiment quelqu'un de fascinant. Et il a dit, ben pourquoi pas utiliser les avions pour repérer les feux de forêt plus rapidement. Et il a convaincu tout le monde que c'était une bonne idée. Et l'association régionale s'est portée acquéreur de cet avion-là, qui est un Curtiss HS-2L, plus précisément. C'est un avion de l'armée américaine qui était basé à Halifax et après la fin de la Première Guerre mondiale, parce que les avions ont servi dans la Première Guerre mondiale très peu, là, pas autant que la Deuxième, on était au tout début, mais tout de même. Et donc, à la fin du conflit, l'armée américaine a donné ou vendu là, ces avions-là à l'armée canadienne, au gouvernement canadien. Et c'est comme ça que la Laurentide s'en est portée acquéreur. Donc, cet avion-là était basé à Halifax. Donc, une fois que l'avion a acheté, on a engagé un pilote pour le piloter jusque chez nous. Donc, c'est un vétéran de la Première Guerre dans la Royal Air Force, Stuart Graham, qui est engagé pour ce vol-là. Et il va faire le vol en compagnie d'un mécanicien. À l'époque, ça prenait un mécanicien à bord. Et de sa femme, qui était belge d'origine. Donc, c'est elle qui a donné son nom à ce premier avion qui s'appelle la Vigilance, hein,
ah, oui?
Bien nommé.
Ah oui?
Donc, c'est pour ça que l'avion portait un nom français. C'est parce que sa femme était belge, donc elle lui a donné un nom français.
Mais pourquoi, donc, juste avant d'aller trop loin, pourquoi ils appelaient ça l'aviation de brousse?
Ah, oh, ben, parce qu'on était vraiment en brousse. Très difficile d'accès. En fait, c'est au niveau de l'accessibilité. Le terme de brousse est vraiment au niveau de l'accessibilité des lieux. C'est pas des avions qui atterrissaient ou qui amérissaient dans des aéroports, sur des pistes d'atterrissage. Uh-huh. On amérissait soit sur un lac, évidemment, ou on atterrissait sur des surfaces planes improvisées.
Dans le fond, ma question, c'est est-ce que c'était des cow-boys? Tu penses que c'était plus dangereux?
Tout à fait, c'est des pionniers, là. Les avions sont vraiment récents, là, à cette époque-là, c'est tout nouveau. Donc, on est vraiment en exploration. Fait qu'il y avait ce côté cow-boy-là, oui, si on veut, dans le sens que on est des innovateurs, des explorateurs, c'est le début d'une industrie. Donc, oui, ça prend à des gens qui osent et qui se jettent un peu à l'eau, là, si on veut, là, qui sont téméraires un petit peu, là, pour mettre ça sur pied dans un premier temps.
Et puis, graduellement, ben là, on s'est développé toute une industrie récréo-touristique autour de ça.
Oui, mais dans une première phase, c'était pas du tout l'usage premier, là. Donc, vraiment, là, ce qu'on a eu du côté de lac à la Tortue, ça a permis l'émergence de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la SOPFEU. L'ancêtre de la SOPFEU, c'est ce qui a été fait au lac à la Tortue, là. Sans ça, la SOPFEU n'existerait pas aujourd'hui. Tout ce qui est le transport du courrier aérien, parce que dans les camps de bûcherons, à l'époque, quand il n'y avait pas de route, c'était compliqué. Donc, le courrier aérien, où on lançait les poches de courrier des airs, la photographie aérienne, qui a joué un rôle majeur au niveau de grand-mère, entre autres, là, qui avait une expertise très reconnue au niveau de grand-mère à ce sujet-là. Ça a vraiment donné naissance à ça ici à Shawinigan avec le lac à la Tortue. Et évidemment, dans un premier temps, transport de passagers, surtout pour les camps de chasse, les camps de pêche, pour l'industrie forestière aussi. Là, on parle à la Anne Stillman McCormick que vous connaissez
sans doute, qui
utilisait entre autres ce mode de transport jusque dans les années 70-80. Là, c'était quelque chose qui était très répandu jusqu'à temps qu'on ait des routes finalement le plus accessible. C'était vraiment encore l'aviation de brousse, tout à fait, puisque ce n'était pas des secteurs développés avec des aéroports là, qui accueillaient ces avions-là.
Et là, aujourd'hui, en reste quoi de tout ça?
Bien, c'est sûr qu'il reste un aéroport au lac à la Tortue qui est encore là. Ceci étant dit, à ce stade-ci, Nous, ce qu'on voulait souligner, c'est le rôle vital de l'Ac à la Tortue dans l'établissement de cette industrie-là. Donc, commémorer un fait historique important. Donc, c'était vraiment là-dessus qu'on voulait s'ancrer parce que Shawinigan a été novateur là, dans ce secteur-là. Donc, aujourd'hui, l'industrie a évidemment évolué avec toute l'évolution des transports, de un, et toute l'évolution de la technologie aussi. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, oui, il y a encore un aéroport qui est là, mais au départ, c'était de montrer le rôle vital qu'on a joué au cours des années qui était important.
Alors, il y a une cérémonie qui est prévue pour ça?
Tout à fait, cet après-midi, cérémonie de commémoration dans un peu plus d'une heure, où on va dévoiler le projet sur lequel on travaille depuis un an. Le comité là, de commémoration du 100e anniversaire là, va dévoiler ce projet-là cet après-midi. On va aussi vous parler de notre programmation qu'on a mis en place pour cet été. Et d'ailleurs, j'aimerais là, inviter là, tous les gens qui nous écoutent ce soir, 18h30, on a une conférence du conservateur du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. C'est le musée qui est à Ottawa. Monsieur Rénal Fortier, qui est chez nous à Shawinigan ce soir, au Lac à la Tortue. C'est vraiment l'expert canadien de l'histoire de l'aviation. C'est un monsieur qui est vraiment fascinant. C'est à ne pas manquer ce soir. Vraiment une belle chance pour nous de l'avoir. Il faut dire que la vigilance, l'avion comme tel, qui a amerri au Lac à la Tortue en 1919, est au Musée de l'aviation à Ottawa.
Ah bon?
Tout à fait. L'avion a crashé en 1922 dans un lac dans le nord de l'Ontario. Et dans les années 60, les experts du musée ont récupéré l'épave pièce par pièce et ont reconstitué l'avion, ont fait une réplique. C'est une histoire absolument fascinante. Donc, ils connaissent cet avion-là sur le bout de leurs doigts. Et ils connaissent aussi, bien sûr, l'histoire de l'aviation. Donc, M. Fortier, là, c'est vraiment une chance de l'avoir chez nous ce soir. J'invite tout le monde à venir l'entendre. Là. C'est vraiment intéressant de découvrir ce pan-là de notre patrimoine qui est méconnu, qu'on aurait avantage là, à faire rayonner.
C'est à quel endroit?
C'est à la bibliothèque Gisèle M. Beaudoin de Lac à la Tortue.
Merci beaucoup, Claudine Drolet.
Ça me fait grand plaisir.
Vous êtes bien bonne en plus, je trouve ça le fun. Vous
c'est
êtes
gentil.
Vous avez l'air d'une passionnée. Qu'est-ce que tu as passé ça dans la vie?
Ah, à part ça, ben voilà, j'ai été 13 ans journaliste radio, donc ça, peut-être que ça déteint.
Où ça?
Voilà. À Radio-Canada.
Ah, à la radio.
Désolée pour la concurrence.
Non, voilà, non, pas radio. De problème. Pas de problème.
Tout à fait.
Bon, alors, en autant qu'on en sorte, diront plusieurs.
Oui, effectivement, oui. C'est le dicton dans le domaine journalistique.
Oui.
Mais oui, je suis passionnée d'histoire de Shawinigan. Et puis nous, au DGHUB, comme chargée de projet, là, je réalise des projets numériques en tourisme, événementiel, tout ce qui est lié au patrimoine, à la muséologie, à la grandeur du Québec, des projets qui sont réalisés par des entreprises de chez nous,
ensemble,
qui vont chercher des mandats partout. Donc, on fait rayonner la région encore autrement en innovation aujourd'hui.
Merci, Mme Drolet, encore.
Ça fait grand plaisir. Au revoir.
Bye bye. Claudine Drolet, chargée de projet patrimoine et muséologie, ancienne journaliste à la radio.
Oui, qui avait l'air passionnée. Hein?
Oui, non, puis elle est bonne. Puis elle livre bien son
sujet. Elle bien le sujet.
On va la rappeler. Peux-tu garder ses coordonnées de côté?
Ben, je
peux-tu
laisse.
Mettre ça dans tes contacts?
On va mettre ça dans nos archives.
Et mais, puis, il y a pas de rôle.
C'est intéressant ce qu'elle parlait des pilotes de brousse, parce qu'il y en avait. Puis il y en a encore quelques.
Les gens qui vont dans des camps. Quand je disais que c'était des cow-boys, c'est ça?
Ben, c'est ça. Tu sais, aller dans des camps de pêche ou des camps de chasse.
C'est parce que
c'était des conditions qui étaient difficiles.
Tu sais, le fameux lac Femme Tailleul, là, t'sais, d'Hippo-Chiquier, là, parce que les poissons sont gros comme des baleines dedans.
C'est ça.
Bon, ben, tu sais, souvent, ces lacs-là sont pas très grands.
Non, non.
Puis là, il faut que tu poses ton avion dessus.
Oui, puis tu y vas à l'œil, là.
Oui, c'est ça.
C'est le cas de le dire.
Faut pas que le vent souffle trop fort dans ton dos.
Puis il y a de ces bons pilotes-là qui sont devenus plus tard des pilotes de ligne. T'sais, le meilleur exemple est le commandant Piché, qui a été, lui aussi, pendant des années, un pilote de brousse.
Comment il s'appelle, là, celui qui a atterri, là,
à Casey.
Avec, il y avait, je ne sais pas, pour 50 millions de coke. En tout cas, il y a un avion bien plein de cocaïne en Haute-Mauricie. Comment il s'appelle,
j'oublie son nom, mais c'était effectivement un habile pilote. Là.
Oui, c'est ça. Alors donc,
j'ai pas dit qu'il faisait des bonnes choses, là, mais c'est un habile pilote.
Midi 44 minutes. Écoute, on pourra poursuivre la tribune téléphonique après la pause. Alors, je vous le rappelle, parmi ceux qui nous parlent aujourd'hui, deux certificats cadeaux pour Fouquet-Morel, l'une des plus belles petites boutiques le fun pour préparer un souper dans la région. Fouquet-Morel, c'est 50 $ qu'on vous offre fois deux. Deux fois, parmi ceux, on va le séparer en deux. Là. On va donner deux fois 50
$. Oui, deux fois 50.
C'est bon, on est d'accord là-dessus?
Oh, oui.
Vous avez qu'à me dire à quel endroit il faut aller faire un petit tour cet été pour être certain d'avoir réussi ses vacances. Mais on reste en Mauricie, là. Sortez-moi pas de la Mauricie. 376-1069.